Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
En RDC, certains hôpitaux n'ont pas de service d'urgence. Lorsque les cas urgents, certains hôpitaux n'ont pas un service des urgences. Lorsque les cas urgents, tels que les blessures graves et autres arrivent, les accidentés sont vite orientés vers d'autres centres, d'autres hôpitaux. Cependant, certains grands centres également manquent parfois des équipements et ont une capacité d'accueil limité. Alors, quelle est l'importance d'un service des urgences dans un hôpital et comment fonctionne ce service? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Dr Yves Loubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne aux cliniques universitaires. C'est ça, docteur?
Tout à fait.
Alors, c'est quoi un service des urgences dans un hôpital?
Bon, en fait, un service des urgences, c'est l'entrée principale d'un hôpital. Par où passent les malades qui ont des problèmes de santé, qui sont d'ordre vital. Le service des urgences, c'est cette unité d'un hôpital, en principe, qui doit être un hôpital de référence ou un hôpital tertiaire, donc universitaire, où on parvient à stabiliser les patients dont l'état de santé est critique, mais aussi un service qui permet de faire le tri entre ce qui est extrêmement urgent, donc qui va passer des urgences vers ce qu'on appelle un service de réanimation ou de soins intensifs, et ce qui est plutôt moins urgent, qui sera géré et réorienté vers un service de consultation externe.
Voilà, donc on retient que c'est les services des urgences s'occupent des cas critiques, des malades qui viennent dans un état critique. Alors, quels sont les différents, sous-services qui fonctionnent dans ces services des urgences?
En principe, un service d'urgence...
Au département, si on peut le dire.
Tout à fait. En fait, c'est effectivement un département. Oui. Il comporte de sous-unités. Il y a ce qu'on appelle des urgences médicales et ce qu'on appelle les urgences chirurgicales. Et dans les urgences chirurgicales, on intègre un peu ce qui est urgence gynécologique. Les urgences médicales concernent les adultes, donc qui vont plutôt vers le volet de médecine, et les enfants vers le volet pédiatrique. Et donc, globalement, on dirait service d'urgence, unité de médecine pour les adultes, unité de pédiatrie, unité de chirurgie, unité de gynéco. Ce sont les quatre grands services ou sous-services qui constituent un service des urgences.
Il y a l'unité de pédiatrie, gynécologie et...
Chirurgie et médecine interne.
Et quand dans médecine interne, il s'agit de quoi? Quand on parle de la médecine interne.
En fait, quand on parle de médecine interne, c'est toutes les affections qui concernent les adultes et qui sont non opératoires. Donc, notamment les patients qui arrivent, prenons un cas banal, qui font un coma, donc une altération de l'état de conscience, perte de connaissance, sans cause traumatique, qui arrivent dans un hôpital, et ben ceux-là sont orientés dans un service de médecine. C'est là que seront mis en route les premiers soins, parce que finalement, ce qui se passe dans les urgences, c'est que on prend en charge les patients pour qui nous savons que le temps est précieux quant au pronostic vital du patient. Plus vite on prend le patient, plus on lui donne des chances de survivre ou de vivre sans séquelles par rapport à la pathologie pour laquelle il a consulté aux urgences.
Alors, quels sont les cas qui arrivent souvent, au service des urgences? C'est les cas des accidentés, les gens...
En fait, dans les urgences chirurgicales, c'est souvent les traumatisés de la voie publique, hein, ce qu'on appelle dans notre jargon les accidents du trafic routier. C'est des patients qui ont connu n'importe quel type d'accident de circulation ou ceux qui viennent avec des blessures, des contusions secondaires à une rixe. Vous savez qu'il y a des...
Oui, il y a eu une manifestation, la police a tiré et certains ont reçu des balles. Alors voilà, on les amène rapidement aux urgences.
Entre autres. Oui. Et ceux-là, vous savez, les blessés qui arrivent aux urgences constituent une urgence vitale, tout simplement parce que nous voyons l'apparence extérieure. Quelqu'un qui est blessé, on voit le sang, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les organes profonds. Parce que ceux-là, quand ils saignent, l'extériorisation n'est pas évidente. C'est ça l'intérêt des services des urgences, parce qu'il existe des signes assez simples que le médecin formé, que l'équipe peut facilement détecter en disant que celui-ci est plus urgent que celui-là, quoique les deux aient subi le même traumatisme dans le cadre d'un accident du trafic routier. Voilà.
Voilà, c'est là, on les emmène dans les, vous avez dit, services de.
Donc ils arrivent aux urgences, aux urgences chirurgicales.
Oui.
À ce moment-là, aux urgences chirurgicales, il y a une prise en charge rapide qui est mise en route avec une équipe, comme j'ai dit, préalablement formée, qui est constituée d'un médecin ou plusieurs, d'un ou plusieurs infirmiers avec leurs aides-soignants, qui ont pour but de travailler.
Docteur, rapprochez-vous de votre micro. Voilà, allez-y.
De travailler de concert,
oui.
De manière à obtenir au plus vite le diagnostic. De deux, la prise en charge adéquate. Et de trois, de sauver la vie du patient.
D'accord. Alors, est-ce que quel état des lieux vous faites des services d'urgence, des urgences à travers les différents centres de santé de Kinshasa? Est-ce que tous les hôpitaux ont ces services? Alors, il semble que certains n'en ont pas. Et pourquoi?
En principe, tous les hôpitaux régionaux, donc les hôpitaux généraux, mais aussi les hôpitaux universitaires, sont dotés de services des urgences. Il existe un gros souci. Ce souci est plutôt d'ordre technique. On a certes un service des urgences, mais le service n'est pas équipé. En termes de, au-delà de l'infrastructure, c'est l'équipement médical qui importe.
Mmh.
Et l'équipement médical, c'est d'abord une trousse d'urgence. Vous savez, un gars qui connaît un accident du trafic routier, qui est acheminé aux urgences, il faudrait pas que celui-là arrive en état de choc entre guillemets et qu'on lui demande de l'argent pour acheter un médicament. Donc en principe, ces services doivent avoir un minimum d'équipement qui permet de prendre en charge le patient sans lui demander le moindre sou, parce que son état peut-être ne permet pas qu'il puisse financer ses soins.
Mmh.
Voilà. Et donc c'est ça l'écueil qui existe ici chez nous.
Donc quand les malades arrivent et qu'il n'est pas dans l'état de vous donner de l'argent, on les soigne pas parce qu'il n'y a pas.
Hein. Oui, parce qu'il y a des services des urgences qui ont finalement le capital humain, mais qui n'ont rien d'équipement, enfin rien comme équipement. Il y a des drogues qui doivent être administrées aux patients. Si le service n'en a pas et que le patient lui-même ne peut pas subvenir à l'achat de ce produit parce qu'il est en coma, parce qu'il n'a aucun membre de famille, parce qu'il a été recueilli dans la rue et emmené aux urgences, il y a un problème. À ce moment-là, il y a un gros problème.
Il y a un gros problème. Nous avons un premier auditeur en ligne, Jean Bosco. Il nous appelle des Kikuits dans le Bandundu. Vous voulez également participer à cette émission? Nous parlons de l'importance d'un service des urgences dans un hôpital. Appelez-nous au 081 890 63 94. Jean Bosco des Kikuits. Bonjour.
Oui, bonjour. Je dis bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Oui, j'allais demander à l'invité. Dans un hôpital où il n'y a qu'un seul service des urgences, si je l'ai bien suivi, c'est comme si dans chaque département, il doit y avoir un service des urgences. Mais dans un hôpital, je prends le cas à Kikuit, où il n'y a qu'un seul service des urgences, il faut combien de personnel qualifié pour travailler dans ce service-là? Et deuxièmement, comment différencier l'état d'urgence? Reconnaître que ça c'est un cas d'urgence et ça c'est un autre cas qu'on peut gérer à l'ordinaire. Et est-il tout malade qui arrive la nuit être traité comme un cas d'urgence? Ce sont là mes petites questions.
Bien, merci Jean Bosco. Joël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Joël, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Oui, quelle est votre question?
Voilà, je voulais juste me dire si l'invité pouvait nous éclaircir un peu par rapport aux catégories, ces services-là. Ces services,
oui.
C'est pour tous les malades qui arrivent à l'hôpital où il y a un état-là exigé pour que vous puissiez être sous la responsabilité de ces agents-là. Et puis, pourquoi est-ce que actuellement ces services dans nos hôpitaux donnent l'impression, lorsque vous êtes là-bas, ça donne l'impression de la mort. Donc, est-ce que ces services-là, lorsque vous êtes là, juste, c'est pour dire que vous êtes dans un état critique ou quoi? Parce que d'urgence, je pense que c'est pour tous les malades qui arrivent à l'hôpital. Parce qu'actuellement, et puis les bonbonnes là, j'ai constaté comme s'il y a des bonbonnes là qu'on et lorsque vous arrivez à l'hôpital, même si vous êtes dans un état à peu près normal, mais la situation s'aggrave par le fait de se retrouver là-bas. Et puis les médicaments qu'ils vous administrent, je ne sais pas si c'est je sais pas, estiré ou quoi, mais vous, vous arrivez, la situation s'aggrave et puis on a peur de ces services-là. Qu'ils puissent un peu nous éclaircir dans, dans un hôpital. Ces services-là, c'est pour, parce qu'à mon avis, tous les malades qui arrivent, c'est toujours urgent pour que on puisse intervenir. Les bonbons, là, quoi, c'est comme ce que nous voyons dans des quados, dans des quados.
D'accord.
Oui.
Merci, merci Joël. Esther, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous.
On vous écoute, Esther.
Oui. Voilà, j'ai deux petites questions à notre invité. La première, je voulais juste savoir s'il peut encore nous dire quelle est la structure même d'un service d'urgence. Donc, un service d'urgence doit être composé de qui et de quoi. De deux, comment fonctionne le système de paiement de frais dans des services d'urgence. Merci.
Bien, merci Esther. Depuis Arou, en province orientale, docteur Yves Lubenga. Je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie et en médecine interne. La première question, nous prenons Jean Bosco qui de Kikwit, qui dit combien de personnes qualifiées travaillent dans un service des urgences. C'est pratiquement la même question que pose Esther, qui veut savoir quelle est la structure d'un service des urgences.
Ok, je remercie les auditeurs pour leur intérêt à l'émission et pour leurs questions. En principe, et j'en profite pour répondre aussi à une question qui a été posée entre-temps, c'est que je n'ai pas dit que chaque département devrait comporter son service d'urgence. Je dis qu'il existe un département d'urgence, comme il existe un département de gynécologie, comme il existe un département de chirurgie, mais dans ce service des urgences ou dans ce département des urgences, il y a des sous-services. Donc ces sous-services, ce sont les sous-services des urgences pédiatriques, des sous-services des urgences gynécologiques, chirurgicales et médicales. Alors, qui doivent constituer ces services? Eh bien, le service doit comporter d'abord un médecin. Un médecin dans chaque sous-service du département des urgences. Au moins un médecin, et selon l'affluence des patients et selon l'endroit où on se trouve, on peut en avoir plusieurs. Parce qu'il existe des sous-services où il y a en permanence 3 à 4 médecins, selon l'affluence que l'on a. La deuxième chose, c'est que le médecin ne peut pas travailler seul dans un service des urgences. Il doit être aidé par des collaborateurs qui sont en première intention les infirmiers ou les infirmières. Et donc ces collaborateurs doivent avoir bénéficié au préalable, tout comme le médecin, d'une formation sur ce qui est pathologie d'urgence. Et ces formations doivent être annuelles ou sémestrielles. C'est une mise à niveau de l'équipe. Mmh. Parce que, en fait, dans un service d'urgence, pour que les choses soient coordonnées, il devrait en principe exister ce qu'on appelle des algorithmes de prise en charge. Donc, dans un service d'urgence, en principe, vous verrez qui a affiché sur les murs ou dans les poches de l'équipe soignante, il y a des manuels, il y a des algorithmes qui sont établis aussi bien par les sociétés savantes que par la structure médicale elle-même, qui permettent de dire que si le malade vient avec tel problème, voilà comment on va procéder. C'est tellement codifié qu'en principe, on ne peut pas passer à côté. Alors, à côté de ces deux personnes, il y a ce qu'on appelle les aides-soignants. C'est une fonction qui n'existe pas trop ici chez nous, qui est donc accomplie par l'infirmier. Ça lui fait un regain de travail quand même. Mais ce sont des personnes qui sont des auxiliaires des infirmiers, qui font partie intégrante de l'équipe médicale et qui bénéficient d'une formation minimale selon leur niveau de connaissance.
Les aides-soignants.
Oui, tout à fait.
Bien. Et comment savoir, Jean Bosco a posé la question de savoir, comment savoir qu'un tel cas est urgent ou pas? Parce qu'il y a un autre qui ajoute en disant que tous les cas sont urgents, tous les malades qui arrivent à l'hôpital doivent être traités rapidement.
Oui, c'est une très bonne question. En principe, je pense que c'est assez simple. Lorsque vous avez une toux qui traîne depuis 24 heures et que vous allez à l'hôpital, je ne pense pas que ça constitue une urgence. C'est une consultation médicale normale que vous allez faire. Vous allez bénéficier donc d'un avis médical selon une consultation logique, sans urgence. Alors que si quelqu'un vient à l'hôpital à 2 heures du matin, parce que toute la nuit il a du mal à respirer, on ne tergiverse pas. On sait que là, il s'agit d'une urgence. Donc il y a des signes, il y a des symptômes que le malade présente, et quand il arrive à l'hôpital, la première chose qu'on lui demande, c'est pourquoi vous venez consulter. Et à ce niveau-là, on sait savoir s'il s'agit d'un cas d'urgence ou s'il s'agit d'un cas qui relève d'une consultation externe. Mais généralement, quand un patient arrive à l'hôpital, au-delà des heures de fonctionnement d'un service de consultation externe, c'est-à-dire après 5 heures du soir, eh ben, il est pris en charge par les urgences qui vont déterminer si il faille le garder en hospitalisation ou si finalement sa prise en charge relève de quelques médicaments avant de le laisser partir à la maison.
Voilà, donc Joël de Kinshasa revient, il dit, est-ce que dans quel état le malade doit être, quel est l'état dans lequel le malade doit se présenter pour être pris en charge par les urgences?
Bon, plusieurs états.
Quelqu'un qui vient, qui est déjà dans le coma.
Ouais, ou, plusieurs états déterminent la prise en charge aux urgences. Vous avez un patient avec qui, enfin, un membre de famille avec qui vous parliez il y a 30 minutes, qui perd connaissance, qui se met à convulser, quand vous l'emmenez à l'hôpital, il relève des urgences. Vous avez quelqu'un qui a connu un accident du trafic routier. Vous n'avez pas l'emmener en consultation simplement. Il faut qu'il aille aux urgences parce que le pronostic vital, donc sa vie, est en danger. Mmh. Et il y a d'autres signes, par contre, qui sont un peu ignorés ici dans notre communauté. C'est des signes qui sont connus partout dans le monde. C'est quelqu'un qui a mal dans la poitrine. Un patient qui vient, qui se plaint d'une douleur thoracique. Ici, chez nous, on garde ces douleurs pendant des dizaines de jours à la maison, où on vient consulter deux semaines après. Partout dans le monde, on sait que quand un malade a mal dans la poitrine et qu'il se présente à l'hôpital, celui-là constitue une urgence vitale. Parce qu'on sait que douleur dans la poitrine égale cœur jusqu'à preuve du contraire. Et donc, tant qu'on n'a pas éliminé une pathologie cardiaque qui est potentiellement mortelle, ce patient doit être aux urgences.
Mmh. Et Joël dit que les services des urgences donnent l'impression d'un mouroir. D'après lui, quand on arrive à l'hôpital, la situation s'aggrave. On va poursuivre tout à l'heure les temps d'accueillir Doudou Kabima de Mujima et Daniel de Mahagi. Doudou, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachamo. Bonjour, c'est à l'invité.
Quelle est votre question?
J'avais des petites questions à poser à l'invité. La première question a été déjà posée et l'autre invité a déjà même donné la réponse.
La deuxième?
Oui, maintenant la deuxième est de savoir. Bon, je peux être en confusion. Est-ce que notre invité peut vraiment me faire bien comprendre? Est-ce que la Croix-Rouge fait aussi partie du service d'urgence? C'est ça ma deuxième question.
D'accord, merci. Daniel, depuis Mahagi, en province orientale, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à tous les invités. Bonjour à l'invité de la radio papier, bonjour aux auditeurs de la radio de la presse.
Quelle est votre question, Daniel?
Ma question est de savoir si ce service est gratuit ou pas.
Bien, gratuit ou pas. Oscar Kamanga de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre question?
Oui, monsieur Jody, je pose cette question à l'invité.
Oui.
Que peut-il nous conseiller dans le cas où, comme dans notre province Kassai-Occidentale, à Kananga, il y a un service d'urgence qui fonctionne, mais des fois, ce service ne parvient pas à s'acquitter de ses tâches. Au cas où, par exemple, vous amènerez un malade et que ce malade parvenait à perdre la vie par négligence de ses services d'urgence, qu'est-ce que le Vité peut-il conseiller au défunt qui parviendrait à perdre les membres de la famille par négligence? Et qu'est-ce qu'il peut nous donner comme suggestion pour renforcer vraiment les services d'urgence qui travaillent dans des hôpitaux?
D'accord, merci. Docteur Yves, revenons à la question de... Esther a dit comment fonctionne, comment se fait le paiement dans les services des urgences. Quand on arrive avec un cas grave, un cas urgent, comment se fera le paiement à ce moment-là?
Alors, ça dépend ici en RDC, ça dépend d'une structure médicale à une autre. En principe, lorsqu'on amène un patient aux urgences, ici c'est souvent par des tiers ou par des membres de famille, le patient est pris en charge directement par l'équipe médicale, alors que dans l'entretemps, le membre de famille va s'acquitter de formalités administratives qui peuvent être d'ordre financier, mais aussi on a besoin de l'identité du patient, on a besoin de son âge, on a besoin de...
On doit remplir la fiche
immédiatement. On doit remplir un dossier parce que finalement, tout ça est analysé hein, plus tard dans les statistiques. On a besoin besoin d'avoir des paramètres socio-démographiques du patient. Et bien entendu, il y a des frais qui sont indispensables selon les structures médicales. Mais pour revenir à la question où certains disent que les urgences ressemblent à un mouroir, je comprends bien que ça préoccupe les gens, mais je dirais surtout que les services des urgences ici chez nous bénéficient des patients qui arrivent souvent tard. C'est une façon de voir les choses. C'est avec notre petite expérience, qu'est-ce qui se passe? C'est que les patients, ils traînent un peu avant de se présenter dans une structure médicale qui est efficace, qui est un hôpital général ou un hôpital tertiaire. Oui. Les patients ont traîné un peu ailleurs. Et donc, quand ils nous arrivent, ils arrivent déjà au stade des complications extrêmes qui font que, finalement, on peut facilement constater leur décès, enfin, très vite constater leur décès, tout simplement parce qu'on les prend en charge tard. Donc, ce n'est pas un mouroir. Les urgences sauvent plus de vies que la plupart d'autres services.
Mais il semble que dans ces services, parfois, dans les hôpitaux, il y a des infirmières parfois peu courtoises. La personne vient, on dit, yo, ça nous qui peut ça combo, peut ça venir nimbon, sinon, au fond de la rawana, tout ça. Donc, ils répondent mal je crois que vous devez être au courant de ça, là, docteur.
Oui, je sais qu'il peut exister des impairs déontologiques, mais je ne pense pas que l'on doive généraliser ces cas d'exception à toute la profession. Je pense que c'est des cas effectivement qui doivent être épinglés par par les autorités dirigeantes des institutions de santé. Essayer quand même de répondre aux suggestions des patients, parce que finalement quand les gens viennent à l'hôpital, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour trouver solution à leurs problèmes. Et donc la moindre des choses pour nous, c'est ce qu'on essaye de faire du mieux que l'on peut, c'est de leur rendre le séjour à l'hôpital très agréable.
Est-ce que lorsque les malades arrivent aux urgences le jour et la nuit, les tarifs sont les mêmes ou ça change? Quand on vient par exemple la nuit, il semble que ça coûte un peu plus cher.
Ça c'est une question vraiment purement administrative. Je ne dirige pas les finances des hôpitaux malheureusement, mais je pense que en principe ça ne devrait pas relever de la même tarification.
Est-ce que la Croix-Rouge fait partie des services des urgences? C'est la question des doudous d'Mboujimaï.
Je dirais plutôt non, parce que la Croix-Rouge, je pense que c'est un organisme international qui est implanté dans beaucoup de pays et qui ne fait pas partie intégrante de nos structures de santé. Non, ça ne fait pas partie des services des urgences.
De l'humanitaire.
Tout à fait, c'est de l'humanitaire.
Et on prend les accidentés pour les amener, les référer rapidement.
En fait, ils aident ici chez nous dans ce qu'on appelle la prise en charge préhospitalière. La prise en charge préhospitalière qui est aujourd'hui le moteur même de la prise en charge en Occident, c'est qu'on a compris que la meilleure façon de porter secours aux patients, c'est de les soigner avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital. Parce que finalement, ils décèdent parce qu'ils arrivent tard. Donc quand on les prend en charge en préhospitalier, on augmente quand même leurs chances de survie. Et c'est ce que la Croix-Rouge arrive à faire ici chez nous, en recueillant les patients ou les accidentés et les blessés. Mais je pense que in fine, il faudra que nous nous organisions dans le sens où il existe une prise en charge préhospitalière, donc une équipe médicale qui se déplace vers le patient et après le stabilise avant de l'acheminer aux urgences. Sinon, ils arrivent dans un état déjà détérioré et le bénéfice n'est pas obtenu malheureusement.
Donc on peut dire que le service des urgences est un service très important.
Je pense que
c'est
la plaque tournante de la prise en charge correcte des patients.
Ouais. Voilà. Et quels sont les équipements qu'on devrait trouver dans un service des urgences?
Alors, au-delà de l'humain, il y a des équipements qui relèvent des sous-unités des urgences. Mais une chose est importante, c'est déjà comment, c'est dans l'architecture. Un service d'urgence, en principe, doit être à côté d'un service d'imagerie. D'accord? Il doit être pas très loin d'un service de biologie clinique, donc du laboratoire, de telle manière que si un patient est aux urgences dans un état sérieux et que l'on doive l'acheminer pour des explorations radiographiques, que ce soit juste à côté. Donc les matériels que l'on doit avoir dans un service d'urgence, je prends un cas simple, le service d'urgence médical en médecine interne, c'est d'abord une salle d'examen digne de ce nom. Une salle d'examen avec des lits, avec des tensiomètres, avec des thermomètres, avec des otoscopes, avec des laryngoscopes. C'est un peu des termes barbares, excusez-moi, mais c'est... je ne sais pas comment les appeler différemment.
Bah, peut-être vous pouvez dire un appareil qui fait ceci, qui sert à...
Ok,
ça,
donc,
ça nous permet de mieux comprendre.
D'accord, il y a des petits appareils qui servent à explorer l'oreille, des oui. appareils qui servent à explorer les yeux, mm-hmm. des appareils qui sont utilisés pour intuber le patient, c'est-à-dire quand un patient a du mal à respirer spontanément, eh ben, il a besoin d'une assistance respiratoire. Nous avons besoin des appareils qui vont nous permettre...
C'est ce qu'un auditeur a appelé bonbonne.
En fait, la bonbonne, c'est en fait un contenant dans lequel se trouve un contenu qui s'appelle de l'oxygène.
Okay.
Cette bonbonne existe encore chez nous. Bon, ça existe partout. Mais le meilleur système, c'est d'avoir de l'oxygène intramural. Donc, dans l'hôpital, on ne voit pas les bonbonnes, mais on sait que si un patient est à tel lit... Il suffit de connecter le masque d'oxygène. Donc c'est dans le mur. C'est vrai que les bonbonnes font peur quand même aux patients. Mais nous n'utilisons pas les bonbonnes à tour de bras. On les utilise lorsque les patients en ont besoin.
Oui.
Notamment ceux qui ont de problèmes respiratoires. C'est surtout ça. Mmh. Ces problèmes respiratoires liés à une pathologie pulmonaire ou surtout à une pathologie cardiaque.
Blanchard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, le sujet est vraiment intéressant, oui, par rapport à ce que la dame est en train de parler sur les cas d'urgence.
Non, il n'y a pas une dame, c'est un monsieur, docteur Yves. C'est...
Oui.
C'est pas une dame, c'est un monsieur.
Oui, ah oui, c'est un monsieur, excusez-moi.
Oui. Oui.
Je voulais dire à l'invité, oui. Moi j'ai constaté qu'au niveau des hôpitaux, il y a une petite négligence. Un exemple, j'ai vécu à l'université et à des fois j'étais garde malade. Mais vous verrez un cas qui est urgent, mais les médecins sont là en train de saboter peut-être, et ils prennent du temps, ils veulent étudier d'abord les cas, ils en font un sujet d'étude. Alors c'est ce qui se passe souvent aux universités. Il y a des hôpitaux là comme, bon je ne peux pas citer les noms, sinon ça sera oui. C'est ce que j'ai vécu. Donc cela fait en sorte que les malades se sentent un peu indignes et la famille est stressée, puisqu'on ne sait pas vraiment les soutenir, les aider au moment où ils attendent assez qu'on puisse agir avec rapidité. C'est ce qui se passe au niveau des universités, les hôpitaux qui sont rattachés aux universités. Ça devient comme un sujet d'étude pour les médecins stagiaires. Alors, est-ce que l'invité peut nous aider à nous éclairer? Est-ce qu'on ne peut pas mettre le médecin qui sont là pour aider d'abord les malades et les cas d'étude, on pourra les faire après?
Merci Blanchard, docteur Yves.
Merci pour la question. Pour revenir à ce qui se passe dans les institutions universitaires, il faut déjà que les gens sachent que les institutions universitaires sont bivocationnelles. Elles sont médicales, mais elles sont aussi formatrices. Et dans cette bivocation, sur le plan médical, nous savons quand est-ce que nous faisons intervenir les apprenants. Et dans ce qui est l'urgence, eh ben, les apprenants sont plutôt au départ des spectateurs. Parce que j'ai tout à l'heure dit que l'intérêt des services des urgences, c'est le fait que la prise en charge, plus elle est prompte, plus on a de chances d'obtenir un gain, donc de sauver le patient. Mais aussi, quand on n'arrive pas à le sauver, d'obtenir le moins possible des séquelles invalidantes. Donc, dans un service d'urgence, on ne peut pas se permettre d'enseigner un apprenant. Puisque le temps ne le permet pas, mais aussi le cas en présence ne le permet pas. Mmh. Donc le fait de dire que souvent les patients sont des sujets d'études, non, ce ne sont pas des sujets d'études. L'apprenant observe comment ça se passe. Il a en sa possession un algorithme de prise en charge sur le plan théorique.
Il dit qu'il a été une fois garde malade, il sait de quoi il parle, le docteur.
Il a été garde malade.
C'est des cas qui arrivent. Parfois, il y a un cas urgent, mais c'est l'occasion, les médecins traînent, c'est pour lui l'occasion d'expliquer à ses étudiants, voilà, telle chose, alors que la famille est inquiète par rapport à la situation de...
Alors, il y a un autre cas de figure, c'est qu'un patient peut être hospitalisé. Quand on est garde malade, on a un patient en hospitalisation. Un patient hospitalisé avec un cas qui est déjà bien cerné par l'équipe médicale et dont la prise en charge est connue, établie, instaurée. Eh ben, pour ces cas, effectivement, dans les institutions universitaires, on peut se permettre de passer un peu plus de temps en expliquant aux apprenants comment les choses se passent et comment on est passé de la plainte du patient au diagnostic et à la prise en charge.
Alors, il y a aussi un problème de la capacité d'accueil des services des urgences. Il y a des services qui n'ont pas, qui peuvent pas prendre autant de malades. Alors, quand on amène des malades pas rapidement, il y a plus, c'est, ils sont débordés, on doit les amener ailleurs.
Tout à fait. Ça, c'est aussi un problème qui est, ma foi, deux fois mieux géré du fait de la multiplicité de centres médicaux, mais aussi de grands centres comme dans une agglomération comme Kinshasa. Effectivement, il y a des services dont la capacité ne permet pas d'assurer la prise en charge en urgence d'un nombre assez important de patients qui arrivent au même moment. Si, par exemple, dans une sous-unité d'urgence chirurgicale, on a un accident de la voie publique avec une cinquantaine de blessés, oui, quelle que soit la structure médicale ici sur place, aucune ne pourra prendre en charge au même moment les 50 blessés. Parce que déjà la capacité d'accueil ne le permettra pas, mais aussi l'équipe médicale sur place devra se faire aider par d'autres médecins. Donc ça sera pas évident. Alors dans des hôpitaux où les services des urgences ont des sous-unités, à ce moment-là, si les autres sous-unités sont dépeuplées, on peut mettre les patients dans ces autres sous-unités et faire participer les collègues à la prise en charge, comme ça se passe partout devant des cas d'urgence comme ça.
Un auditeur nous a écrit depuis Lubumbashi, Samuel Chimanga, il est étudiant en santé publique à l'université de Lubumbashi. Il dit qu'il serait mieux de réformer l'organisation des services de santé dans la capitale à travers une politique sanitaire intégrée. Cela donnerait lieu à la dotation des infrastructures fiables et à des matériels nécessaires pour des soins spécifiques à toute intervention.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Lui qui fait la santé publique, il sait que en principe, une politique de santé, elle est étudiée sur terrain, justement par les médecins qui font de la santé publique. Ils font des enquêtes épidémiologiques ou des enquêtes dans les hôpitaux. Et sur base de ça, ça leur permet d'élaborer des projets, et des bons projets qui bénéficieront plus tard d'un financement, et le financement va aboutir à la dotation aux structures médicales d'équipements nécessaires et inhérents à un service des urgences.
Voilà. Bien, docteur Yves Lubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne aux cliniques universitaires de Kinshasa, merci et à la prochaine.
Merci, au revoir.